Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez Les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle des jeux de société. Astien, et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec le Pionfesseur. Salut Pionfesseur, comment tu vas ?
Salut Astien, ça va et toi ?
Eh ben ça va, je suis en vacances à l'autre bout du monde, donc on enregistre avec 6 heures de décalage.
C'est ça, on peut préciser que c'est peut-être pour ça que t'as pas le même micro que d'habitude, j'espère que ça s'entendra pas trop.
Voilà, j'aurais peut-être des petits défauts de micro, mais c'est pas très très grave, ça devrait aller je pense, je suis pas sur un truc non plus trop dégueulasse.
C'est ça.
Et ben on va commencer quand même par remercier tous nos donatrices et nos donateurs qui soutiennent ce podcast. Donc on remercie Dr. Cheux, Deckmoon, Philippe Leray, Benjib, Wallring, Frédéric, la famille Blue, Grovast, Yann Loïc, Yann Le Proto, Strugarek, Gerny Lolo, Collignan, Nox, Hammer, Chinou et Croclume.
Et on remercie également la Caverne du Gobelin, notre partenaire. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Mais c'est surtout et aussi une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com. Et donc toujours avant de commencer l'émission, je te propose qu'on fasse un petit retour sur les commentaires de l'émission précédente. Le jeu du mois du mois dernier, c'était, alors il y a eu Dracula versus Van Helsing et Faraway. Alors il y a eu pas mal de retours positifs sur l'émission en elle-même, donc il y a plein de gens qui étaient contents de l'analyse qui ont été faites par Mad et par Zéphiriel. Et bon voilà, donc je vais pas faire un retour sur tous les commentaires.
Non.
Il y en a eu 11 en tout, mais en fait c'est Mad, elle triche parce qu'elle répond aux commentaires, elle en fait deux fois plus. Mais je remarque surtout un commentaire assez marrant, c'est qu'il y avait Lalisa 59 et Chips qui se sont un peu répondus. Parce qu'en fait, Lalisa 59 n'a pas aimé le jeu, car en fait, elle formule ça comme ça, genre son cerveau n'arrive pas à capter le truc, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu tordu. De Faraway, pardon, je parle.
Okay.
Elle n'a pas du tout aimé Faraway à cause du côté un peu tordu qu'il y a dans le jeu. Et donc du coup, ça a fait une sorte de repoussoir pour elle. Alors que Chips, à l'inverse, avait tout de suite capté le truc. Et il disait qu'il voyait toute la logique qui était derrière le jeu. Et donc, finalement, le trouvait basique et inintéressant. Donc je trouve ça assez marrant, tu vois, ces deux visions complètement opposées. Mais à la fin, les deux n'aiment pas le jeu, quoi.
Oui, clairement.
Et Chips avait une belle phrase, d'ailleurs. Il disait « J'ai l'impression de voir un jeu à gimmick » dont je ne peux pas profiter. Un peu comme si un groupe de moines zen se lançait sur une partie de kites. J'ai trouvé ça pas mal comme phrase.
Ok, pourquoi pas. Oui, je comprends tout à fait le retour de Dalalisa quand même. C'est des retours que j'ai beaucoup sur les joueurs, surtout au niveau de la première partie où ils ont un manque de visibilité globale. Et après, soit ça t'a plu, soit t'es passé vraiment à côté t'arrives pas du tout à comprendre et à suivre. Mais c'est quand même un problème qu'on a sur la première partie, je trouve.
Ouais, je suis assez d'accord. Même moi, première partie, j'étais en mode « waouh ». Je me suis planté dans un de mes contrats et j'ai fait « ah mais oui, c'est vrai que c'est que les cartes qui sont après le contrat ». Tu vois, en fait, c'est un jeu qui te prend un peu à revers de tes habitudes.
Ouais, c'est ça.
De joueurs. Après, bon, bah, vous irez voir aussi, si vous voulez, sur Discord, il y a eu pas mal de conversations sur Faraway. Donc voilà, on a pas mal discuté justement de cette histoire de contrat... Moi, j'avais pas mal discuté avec Dédé Chutes aussi et Flavien qui avait relancé un peu la conversation, donc c'était très intéressant. Voilà, on va pas aller plus loin sur les commentaires, vous irez regarder tout ça si ça vous intéresse. Et je te propose que maintenant on rentre dans le vif du sujet.
Oui, et ben je vais commencer par vous parler de The Veil of Eternity. The Veil of Eternity, c'est un jeu de Eric Hong, publié par Mandu Game, illustré par multi-illustrateur et illustratrice. Alors, je vais essayer de tous les citer sans écorcher leur nom. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Hein. Je vous préviens.
Bon courage.
Il y a Jiawei Evagao, Gote Maya, Gauthier Mala, non Maya, non Maya, Gauthier Mala, Maya, Stefano Martinuz et Erika Tormen. Voilà, je suis désolé si j'écorche des noms. C'est pas toujours facile quand c'est des personnes d'origine variée comme ça. Qu'est-ce que c'est Veil of Eternity? Veil of Eternity, c'est ce qu'on appelle un tableau building. Je ne sais pas si tu as un nom spécifique. Je sais que tu aimes bien mettre des bons noms sur les bonnes choses.
Tu veux dire une version française de tableau building?
Ouais.
Bon, moi je dis construction de tableau.
Ouais, construction de tableau, tout simplement. Ouais, très bien. Non, mais je sais que tu as des termes qui sont assez bien ancrés, qui sont plutôt bien référencés. Donc, je
Non, c'est
préfère
vrai
avoir
que.
ton aval sur ces trucs-là.
Ouais, non, moi j'aime bien dire construction de tableau, je trouve ça assez clair en français quand même.
Très bien. Eh bien, un jeu de construction de tableau, du coup, dans lequel on va récupérer des cartes dans un marché au centre de la table et on va essayer de faire des combos pour remporter 60 points de victoire avant le 10e tour. Parce que la partie peut se terminer de deux façons. En ayant 60 points de victoire, enfin en ayant dépassé au moins les 60 points de victoire par un des joueurs, ou à la fin du 10e tour de jeu. Donc ça va se présenter avec 5 familles de cartes qui sont réparties dans un marché au milieu de la table. Ce marché, on sépare les cartes par famille et en fait les cartes, on va pouvoir mettre deux jetons dedans et il y a un avantage pour le premier joueur qui va pouvoir être le premier à mettre un de ses jetons sur une des cartes pour la réserver. Puis on va faire le tour de la table et on va faire un retour entier de tous les joueurs. Donc on va faire un aller et un retour. Comme Faraway. Non, pas du tout comme Faraway. On
Tu veux dire qu'on
va
joue
en gros.
un coup dans le sens des aiguilles d'une montre, un coup dans l'autre
Voilà, c'est
sens, c'est
ça.
ça?
Chacun va mettre un
Ouais.
jeton et puis après on va revenir. Chacun va mettre un jeton et le premier joueur va être le dernier. Donc il n'aura plus le choix, il aura juste la dernière carte qui reste. Donc il a certes un avantage, mais aussi un inconvénient. Et ensuite, ces cartes-là, on va avoir plusieurs possibilités. On va soit pouvoir les acquérir, donc c'est des créatures, on appelle ça qu'on les apprivoise dans le jeu, soit on va pouvoir les vendre. Tout simplement, on les vend. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus dans le jeu et on va pouvoir le vendre contre des ressources. Ressources qui sont acquises par rapport à la couleur de carte. Les cartes rouges, par exemple, qui sont des cartes d'une famille plutôt de cartes faibles, on va dire faible valeur, pas forcément faible potentiel dans le jeu, mais voilà des cartes à faible valeur. On va pouvoir les vendre pour 4 pièces. Pour 4 pièces de valeur 1. La famille d'au-dessus, ça va être pour 3 pièces. La famille d'au-dessus, ça va être une pièce de valeur 3. La famille d'au-dessus, une pièce de valeur 3 et de valeur 1. Et la famille encore au-dessus, une pièce de valeur 6. Voilà, en gros, on va devoir essayer de matcher entre les cartes qu'on va acquérir, les ressources qu'on va essayer de récupérer en vendant ces créatures. Et ensuite, une fois qu'on a des créatures dans sa main, on va pouvoir les jouer devant nous. On peut avoir autant de créatures que la manche. On peut avoir autant de créatures en jeu que le numéro de la manche. À la manche 1, on peut avoir qu'une seule créature, manche 2, deux créatures, et ainsi de suite jusqu'à la manche 10. Et ces créatures, elles ont un coût d'affiché. Il va falloir payer avec les ressources qu'on a récupérées en vendant les autres créatures. La petite spécificité, quand même, c'est que ces ressources, elles sont en nombre limité dans notre poche. On peut avoir que 4 ressources dans notre poche. Donc 4 runes, parce que c'est des runes avec lesquelles on va acheter des runes de valeur 1, des runes de valeur 3, des runes de valeur 6. On va pouvoir en avoir que 4 dans sa poche. Et ça mène une certaine difficulté parce qu'il y a une petite gestion de ressources à avoir. Parce que bah, si je veux payer une carte de valeur, je sais pas, 5, il faut que j'ai des ressources pour atteindre 5. Si j'ai que des petites runes à 1, bah, je vais jamais pouvoir acheter ma carte de valeur 5 parce que je suis limité à 4 runes dans ma poche.
Mais
Donc
si t'as
voilà, il
un
va
6,
falloir.
tu pourrais.
Si tu as un 6, tu peux payer
Ouais.
plus. C'est juste que la banque ne rend pas la monnaie. Donc tu payes plus cher ta carte, mais au moins elle est posée. C'est pas quelque chose de forcément contraignant dans ce jeu-là. Souvent on paye des cartes un peu plus chères parce que on n'a pas forcément l'argent, enfin la ressource qu'il faut. Donc c'est pas très très grave, moi je trouve, mais
En
on y
fait,
reviendra après.
quand tu dis il y a plusieurs ressources, en fait, il n'y a qu'une seule ressource, c'est la monnaie, mais c'est juste que c'est une quantité différente qui est sur chaque jeton, c'est ça?
Oui, voilà, il y a des jetons, enfin des runes 1,
Qui valent un de monnaie,
des pierres précieuses, je
trois de
crois même, ils
monnaie.
appellent ça. Voilà,
Ah
1
oui.
de monnaie, 3 de monnaie et 6 de monnaie. Il y a des cartes qui vont pouvoir modifier ses valeurs, mais en soi, les valeurs de base, c'est ça. Et on peut en avoir que 4 maximum dans sa poche. Donc si tu as 4 pierres précieuses à 6, tant mieux pour toi, t'es riche. Mais après, c'est bête d'utiliser une pierre précieuse de valeur 6 pour une carte qui vaut 1 en coup de pause, tu vois. Donc ça se fait, hein, ça m'est arrivé. Mais voilà, c'est pas le truc le plus intéressant et intelligent, je pense, dans ce jeu-là. Et donc, il va falloir matcher justement entre les cartes qu'on a récupérées, les cartes qu'on a vendues qui vont nous rapporter ces pierres précieuses, pour essayer de composer un tableau et comboter pour gagner des points de victoire. Points de victoire qui sont notés sur une piste à côté, hein. Clairement, il y a un petit symbole de points de victoire, on le reconnaît assez facilement sur les cartes. Ces cartes, elles ont plusieurs types d'effets. Déjà, il y a vraiment des synergies qui se construisent dans chaque famille. Donc, il y a 5 familles. Dans chaque famille, il y a vraiment de la synergie vraiment présente dans chacune. Mais en plus de ça, le but, c'est qu'il va falloir essayer de faire des points de victoire, comme je disais. Et il y a des cartes qui vont avoir des effets instantanés en pause de jeu. Il y a des cartes qui vont avoir des effets en fin de manche. Une manche, c'est quand tous les joueurs auront récupéré les cartes au centre de la table, qu'il n'y a plus de cartes disponibles. Et le troisième type d'effet qu'on va retrouver sur les cartes, ça va être des effets permanents. Par exemple,
Ah oui.
justement, je te disais qu'il y a des cartes qui vont pouvoir modifier la valeur de nos pierres précieuses. Il y a des cartes qui vont dire de façon permanente, maintenant, toutes tes pierres précieuses de valeur 3, elles ont une valeur de 6. Toutes tes pierres précieuses de valeur 6, elles ont une valeur de 3. Ça va te permettre d'inverser ça, parce que si tu as une mécanique qui va t'apporter beaucoup de pierres précieuses de valeur 3, et ben, elles ont beaucoup plus de valeur que ce qu'elles avaient jusqu'à présent.
Y a de la combo.
Il y a de la combo, oui, tout à fait. Voilà sur les effets des cartes en soi. Il n'y a pas d'autres types d'effets, il n'y a vraiment que ces trois-là. Après, c'est vraiment ce qu'il va y avoir marqué sur les cartes qui va avoir beaucoup de valeur. Comme je disais, il y a 5 familles. La famille des cartes rouges de type feu, elles ont une valeur très faible en pause. C'est pas des cartes qui vont rapporter forcément énormément de points de victoire comme ça d'un coup. Mais par contre, c'est des cartes qui synergisent beaucoup avec les pierres précieuses de valeur 1. Elles vont augmenter leur valeur, elles vont te permettre d'en acquérir tout au long de la partie de façon automatique en fin de tour. Voilà. Plein de petites choses comme ça qui vont te permettre de valoriser tes pierres précieuses de valeur 1.
Ok.
C'est voilà. Ça va aussi te permettre d'agrandir ton pool de pièces aussi. Il y a une carte qui fait ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La deuxième famille, ça va être les verts. Donc plutôt typés plantes, nature dans le jeu. Je me souviens pas qui est vraiment d'univers mis sur le jeu quoi. C'est vraiment, tu as des cartes de couleur, tu as des symboles qui représentent, voilà, les cartes rouges, il y a un symbole feu, les cartes vertes, il y a un symbole montagne, avec des petits personnages plus esprit de la forêt et tout ça. Ces cartes vertes, elles vont avoir de la synergie sur la réduction de coût de nos cartes et la gestion de la pioche de défaut de la pioche de défausse, ça veut rien dire. La gestion de la défausse. Elles vont te permettre d'aller
Ok.
chercher d'autres cartes dans la défausse. Et bien sûr, elles synergisent pas mal entre elles. Si tu as d'autres cartes vertes, tu fais plein de points, des choses comme ça. Les cartes bleues, elles vont avoir plutôt une synergie avec les pièces de valeur 3, les pierres précieuses de valeur 3. Et ça va te permettre de les modifier, comme je disais, par exemple, d'augmenter leur potentiel ou de gagner des points de victoire par rapport au nombre de pierres que tu as en jeu. À chaque fois que tu utilises une pierre de valeur 3, tu vas gagner des points de victoire. Voilà, ça va être une petite mécanique comme ça. Et bien sûr, encore une fois, elles synergisent toujours entre elles avec de la petite réduction, des choses comme ça.
C'est marrant parce que tu as dit la famille rouge, la famille
Ouais.
verte, et moi je m'attendais à ce que tu dises la famille bleue.
La famille bleue.
Pour le bleu, la famille bleue.
Tout à fait.
Jusque-là, on est sur les couleurs de Magic en tout cas.
Ouais, c'est vrai qu'on pourrait être sur les couleurs de Magic, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après,
Il en
le
reste deux
vert,
des couleurs?
c'est pas forcément des grosses créatures, on y viendra après, ça va être le violet. Mais oui, il reste 2 couleurs, il reste les roses, qui eux, les roses fonctionnent
C'est là que
beaucoup
ça
plus
change.
sur la pioche. Là, c'est vraiment une couleur de pioche avant tout. Donc, ça va nous permettre de piocher en fin de tour. À quoi ça sert de piocher? Ben, ça sert à aller chercher les cartes autrement qu'au centre du plateau. Parce que comme on est limité que à 2 cartes par tour, parce qu'on n'a que 2 jetons, on va faire, comme je disais, un va-et-vient autour de la table. on va récupérer que deux cartes et potentiellement on va les vendre pour récupérer des ressources. Là, la pioche va nous permettre d'aller augmenter notre taille de main pour pouvoir avoir encore plus de potentialités de créatures à invoquer sur notre tableau. Et la dernière couleur, ça va être les violets. Les violets, c'est les dragons. C'est là où on trouve justement Eternity, le grand dragon du jeu, qui score, il me semble, lui, il score 4 points par carte de chaque famille que tu as dans ton tableau quand il arrive en jeu. Ce qui peut faire...
Tu joues toutes les couleurs.
Ouais, si tu joues toutes les couleurs, tu fais 4 x 5, tu fais 20 points. Le but du jeu, c'est d'atteindre les 60 points. Donc tu fais quand même un tiers du score à lui tout seul, quoi.
C'est fort.
Mais il coûte 12 à poser. Donc, okay. Il n'est pas si évident à poser. Il faudra avoir deux pierres 6. Clairement, les pierres précieuses 6, tu les acquiers que en vendant des dragons. C'est le seul moyen d'acquérir des pierres précieuses à 6. C'est en mettant ton jeton sur un dragon et en le vendant, tu gagnes une pierre précieuse à 6. Sinon, les pierres précieuses à 6, c'est assez dur quand même de les acquérir. Bien sûr, il y a des combos qui vont nous permettre de les avoir et tout ça dans le jeu. Et donc les dragons, eux, ils ont essentiellement des pouvoirs instantanés d'arriver en jeu et ils vont nous permettre de détruire des cartes dans le tableau des adversaires ou dans son propre tableau. Je vais y revenir après, justement, ça peut être intéressant. Parce que comme je vous disais, son tableau, tu es limité dans ton tableau par le nombre de cartes par rapport à la manche en cours. Si tu veux aller chercher des combos un peu intéressant pendant 3-4 cartes d'un coup, des fois c'est pas possible parce que t'as pas assez de place disponible dans ton tableau. Donc tu vas pouvoir retirer des cartes de ton tableau et pour ça tu dois payer le coût de la manche en cours. Manche 4, tu dois payer 4 de valeur de pierre précieuse pour retirer n'importe quelle carte de ton tableau. Manche 5, 5. Et le problème c'est qu'à partir de la manche 6, ça commence à être un peu cher. On s'en rend bien compte. Donc les dragons là deviennent intéressants pour aller s'auto-détruire des cartes qui n'ont plus de valeur à rester là, qui ont en fait eu des valeurs d'entrée en jeu et qui maintenant ne nous apportent pas forcément grand-chose, pour pouvoir aller libérer de la place et mettre des nouvelles cartes. Donc c'est un aspect qu'on ne voit pas forcément au début de Veil of Eternity. On va se dire, ok, c'est des cartes qui vont faire péter le tableau des autres, sauf que déjà, c'est l'adversaire qui choisit quelle carte il enlève. Sauf s'il n'a pas le choix, il n'a qu'une seule carte de cette couleur-là, bien sûr. Ça va être, par exemple, votre adversaire détruit une de ses cartes bleues. Ouais, mais bon, s'il en a 5, il va détruire la moins intéressante pour lui, et voilà. Et souvent, on essaie quand même de synergiser avec les mêmes couleurs dans son tableau pour essayer de faire plein de points, quoi. Voilà, donc c'est pas forcément intéressant d'attaquer les adversaires. Moi, je trouve que ces cartes violettes sont plus intéressantes pour aller épurer son tableau et pouvoir mieux comboter. Il y a vraiment des combinaisons qui se font entre les différentes familles, quand même, par rapport à certaines cartes de fin de tour ou par des actions instantanées. Comme je disais tout à l'heure, Eternity, lui, score pour chaque famille qu'on a en jeu. Il y a plusieurs cartes qui font ça. À peu près dans chaque famille, on retrouve ce genre de cartes. C'est juste que plus la carte est dans une famille de élevée, donc par exemple les violets et les roses, plus elle va rapporter de points de victoire, parce qu'elles sont plus chères, elles sont plus dures à poser, elles sont plus intéressantes pour tous les joueurs. Donc il va falloir essayer de matcher avec tout ça.
C'est ce qu'il inscrit dans le genre du combo de cartes.
Ouais, voilà. En gros, c'est ce qui fait que c'est vraiment un jeu à combo. Moi, on me l'a présenté initialement comme un Seasons allégé. Alors, on est sur le combotage à la Seasons, on va dire, où on va essayer de vraiment synergiser avec un minimum de cartes sur son tableau, parce qu'on a une limite. Après, pour moi, c'est beaucoup plus opportuniste que Season. Season, tu vas avoir des cartes en début de partie. Tu vas faire tes decks de chaque manche, enfin tes mains en tout cas de chaque manche, et tu vas pouvoir essayer de mettre un plan de jeu. Là, le plan de jeu, il se dessine tout au long de la partie, et c'est clairement opportuniste, parce que si tu as les cartes qui tombent au bon moment par rapport à l'ordre du tour, où tu sais que tu pourras l'acquérir plutôt qu'un autre joueur qui pourra la prendre à ta place, quand même, on est quand même sur ce genre de mécanique. On peut pas parler d'un Seasons réellement. C'est vraiment juste sur l'aspect, on va créer un tableau, on peut poser autant de cartes là que de manches en cours. Dans Seasons, c'est autant qu'on a d'étoiles. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu peux monter une jauge d'étoiles qui va te permettre d'avoir plus ou moins de cartes sur ton tableau. Donc c'est le seul rapprochement qu'on peut faire avec Seasons. Après, les cartes, elles n'ont pas autant de combos, ça va pas être la gestion de ressources. Voilà, là on est sur une seule ressource qui sont les pierres précieuses, on peut en avoir 4. On va pas beaucoup plus loin que ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les cartes à son tour de jeu. On va pouvoir les jouer dans l'ordre qu'on veut. Donc, on va pouvoir, plutôt qu'acquérir les cartes au centre de la table en premier, on va pouvoir en jouer de notre main pour réduire notre pool de pierres précieuses, vendre une carte pour remonter notre pool de pierres précieuses, pour aller reposer une carte, le réduire, revendre une autre. Voilà. On peut vraiment matcher dans l'ordre qu'on veut. Ça, il n'y a pas de problème. Et ça permet vraiment d'aller faire des petits combos à son tour sans se prendre trop la tête, je trouve. Ça fonctionne plutôt bien là-dessus. Le manque pour moi qu'il y a, c'est que quand même, ça manque d'interaction entre les joueurs. Il y a la seule interaction, elle est sur le choix des cartes au centre de la table. Ça grince un peu des temps à ce moment-là, mais après, dès qu'on est sur la construction de tableau, il me semble, il y a une seule carte qui permet d'aller voler un point de victoire à un adversaire. C'est tout.
T'as pas dit qu'il y a des cartes qui allaient péter des cartes chez les autres?
Oui, c'est vrai, mais ces cartes-là, comme je te disais, en fait, on les joue très peu chez les autres parce que, enfin, en tout cas, sur la dizaine, quinzaine de parties que j'ai faites, on a très vite oublié de les jouer chez les autres parce que c'est des cartes qui valent très cher. Et en fait, quand on va les faire péter des cartes chez les autres, c'est l'adversaire qui choisit laquelle il fait péter.
Ouais, comme tu
Et
disais.
en général, tu as envie de lui casser son plan de jeu, sauf que c'est pas toi qui choisis quelle carte tu lui enlèves dans son plan de jeu. Et comme je disais, par exemple, si tu vas lui enlever une carte bleue, il en a 3-4, il va pas prendre celle qui lui apporte des points de victoire en fin de tour, il va prendre celle qui lui avait fait un pouvoir instantané à un moment donné, et il la vire et ça lui fait une place dans son tableau. Et en fait, ces pouvoirs d'interaction, ça m'est arrivé une fois que ça soit vraiment négatif pour un joueur autour de la table, mais sinon, ils sont pas si négatifs que ça, quoi. Vraiment, là-dessus, l'interaction, elle n'est pas si forte que ça, sauf sur
Ok.
la récupération des cartes au centre de la table, où là, ça peut grincer des dents, bien entendu. Parce que bah, c'est la carte qu'on voulait, il y a un joueur qui la prend à notre place, il va même pouvoir faire la récupérer juste pour nous bloquer. Mais en général, on récupère quand même pour avoir les pierres précieuses qu'il nous faut et les cartes qui nous intéressent sur nos combos.
D'accord, ok.
Voilà, je sais pas si tu as des questions sur le jeu, je sais pas quoi dire forcément d'autre. Là, attends, je réfléchis. Hein.
Non, bah moi après ça m'évoque des jeux genre bah plus Res Arcana, Elysium, tout ça. Ce côté
Ouais.
combo quoi. Jeu de combo de cartes.
Ouais, jeu de combo de cartes, plus léger quand même que Res Arcana, ça peut partir très loin avec 3 cartes sur le tableau.
Ouais.
Là, on va pas très loin avec 3 cartes sur le tableau. Il y a une courbe qui est étrange quand même dans ce jeu, c'est que sur les 4-5 premiers tours, on fait pas beaucoup de points. On fait vraiment pas beaucoup de points. On arrive à peut-être 10-15 points dans le jeu. Et puis d'un coup, en fait, on a un moteur qui se met en place et ça peut exploser. Et là, tour 6-7, on peut faire 20 points à chacun et hop, on récupère la victoire parce qu'on est passé au-dessus des autres d'un coup. Parce qu'il y a ce côté opportuniste, mais parce qu'aussi il y a vraiment cette construction de tableau qui va pas être si synergisante que ça, parce qu'on récupère que 2 cartes par tour, et il faut vraiment tomber sur les cartes qu'il faut aller chercher d'autres cartes. Donc comme je dis, il y a vraiment de l'opportunisme. Après, je trouve qu'en fin de partie, on arrive toujours à se débrouiller pour avoir un petit moteur. Le problème, c'est que quand il y a un joueur qui arrive à construire un moteur dès le tour 3 ou 4, tu sais que toi, ton moteur qui arrive tour 7, c'est rare qu'il fasse la différence. Il y a des gens qui arrivent à faire 30 points d'un coup, hein. Ça m'est arrivé, moi, avec une mécanique de pioche et de défausse et de récupération de pioche dans la défausse où je récupérais toujours les mêmes cartes et en fait, j'arrivais à faire pas mal de points en un seul tour. Mais voilà, c'est pas non plus des choses qui arrivent tout le temps. Un aspect aussi qui peut différer sur le jeu, c'est quand par rapport au nombre de joueurs qu'on est. J'ai oublié de le dire, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Et quand on est 2, on va pas avoir tout le paquet de cartes, clairement. Il n'y a qu'une partie des cartes qui vont être mises sur le marché. Et du coup, ben, on est encore plus sur de l'opportunisme qu'à 4 joueurs. Parce qu'il va falloir se débrouiller avec ce qui tombe. Alors qu'à 4 joueurs, on se retrouve avec tout le paquet qui tourne, tout le paquet de cartes, donc on les voit toutes passer. Après, peut-être qu'on n'aura pas celles qui nous intéressent, mais on les voit toutes passer. Et quand on connaît un peu le jeu, on sait quelle carte va synergiser avec quelle autre carte. Et du coup, on va essayer de chercher ces combos-là. Ce qui arrive moins à 2 joueurs. J'ai beaucoup joué à 2 joueurs. Moi, c'est pas ce qui m'a dérangé. Parce que le jeu dure du coup 20 minutes à 2. Et ça passe très bien pour se dire, ok, j'arrive à poser mon combo avant toi. Dommage, tu n'y es pas arrivé. Allez, on en refait une. Et c'est reparti pour un tour, quoi.
Ça fait vraiment des points qui me font penser à un petit Res Arcana, encore une fois, hein, parce que t'as aussi le côté moteur, finalement.
Ouais, mais il est beaucoup plus violent dans Res Arcana, dans le sens où
ah ouais, d'accord.
Tu dois essayer de synergiser beaucoup plus vite dans Res Arcana. C'est vraiment le but, c'est d'aller faire ses objectifs pour gagner les points de victoire dans Res Arcana. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, ouais. C'est pas des points de victoire, mais...
Si, il y a des points de victoire.
Si, c'est des points de victoire. Alors que là, tu vas essayer d'aller chercher des cartes qui synergisent tout au long de la partie. Parce que vraiment, en 3 tours, avec 3 cartes, tu feras rien.
Plus comme dans Red Force of the Galaxy, quoi.
Ouais, oui, voilà. C'est ça, en fait. On va plus retrouver un truc à la race où on va essayer de construire quelque chose tout au long de la partie. Plutôt que d'optimiser pour y arriver avec le moins de cartes possible. Ça peut se faire, mais je pense que c'est très compliqué et faut vraiment avoir les sorties au bon moment que l'adversaire nous laisse, les cartes qui synergisent parfaitement ensemble, ce qui est rarement le cas. Hein. Clairement, quand tu vois qu'un joueur commence à synergiser sur les pierres précieuses bleues, tu lui laisses rarement la carte qui fait qu'il gagne des points de victoire à chaque fois qu'il utilise ses pierres précieuses. C'est compliqué sinon. De se dire que tu vas faire la différence, il y a une course, mais on va essayer de se mettre des bâtons dans les roues pendant cette course, quoi.
Okay.
Un autre aspect qui m'a un peu sauté aux yeux au bout de quelques parties, c'est que en fait, les cartes qui rapportent des points de victoire en fin de tour, très tôt dans la partie, ça peut rapporter quand même, ça peut faire la différence, parce que c'est souvent des cartes qui vont dire à la fin de tour, tu gagnes une pierre de valeur 1 et un point de victoire. Ah ben à la fin du tour, tu voles un point de victoire à un adversaire. À la fin du tour, tu gagnes, tu gagnes 5 points de victoire si tu défausses une pierre de valeur 3. Voilà, tu vois, des petites mécaniques comme ça qui fait qu'en fait, ça fait vraiment la différence parce que c'est des points de victoire qui sont acquis tout au long de la partie, alors que c'est pas forcément facile de gagner des points de victoire à chaque manche. Il y a des manches où tu vas jouer, tu vas rien gagner, quoi. Surtout en début de partie. Donc l'adversaire qui te met déjà 3, 4, 5, 10 points sur les 2, 3 premiers tours, ça annonce des fois la couleur de la fin de partie, quoi. Donc c'est des choses, nous, sur lesquelles maintenant, je préviens les joueurs quand je lance une nouvelle partie, que voilà, les cartes de gain de points de victoire en fin de tour, elles sont quand même très importantes parce que elles peuvent faire la différence. Mmh. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Un jeu de combo plaisant. Non, tiens, j'ai pas parlé des graphismes quand même. Les graphismes, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je trouve que c'est très consensuel. On va dire, c'est beau. Voilà, ça fonctionne. Mais je trouve que c'est vraiment des graphismes pour plaire au plus grand monde. On est sur un truc chatoyant, des couleurs plutôt flashy, un peu pastel. On est sur des monstres, des dragons, des petits monstres un peu féeriques, des harpies, des sirènes, des choses comme ça. Mais je sais pas, moi je trouve pas que ce soit très sexy. Je trouve que c'est très consensuel pour plaire au plus grand monde, un peu. Hein, Je vais être insultant envers des illustrateurs et des graphistes, hein, mais voilà, des styles très mix entre le manga et le comics. Voilà, on essaie de faire un truc qui passe partout, quoi.
Ah ouais,
moi, ça me plaît pas. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui trouvent ça beau. En tout cas, c'est pas moche à regarder quand c'est sur la table, parce qu'il y a des jolies couleurs très chatoyantes. Mais quand tu regardes dans le détail, je trouve pas que ce soit si sexy. Il y a des illustrations bien plus belles dans le monde du jeu aujourd'hui.
Je te rejoins assez. Hein. Là-dessus, je peux juger parce que moi, j'ai pas joué au jeu, mais
ouais.
les illustrations, je les vois. Et effectivement, je trouve que c'est assez basique. C'est pas le pire que j'ai jamais vu.
Non, ah non, clairement, non. C'est pas moche. C'est ce que je disais. C'est juste que moi, je suis pas sensible à ça. Après, je trouve ça trop conventionnel, comme.
Oui, voilà.
C'est vraiment là pour faire plaisir, quoi.
Je préfère certains nanars à ce genre d'illustrations, moi.
Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, des fois, il y a des trucs où moi, c'est. Ça sort du lot, quoi. C'est original. Là, voilà. On sait que ça plaira. Ils sont pas mouillés, quoi.
Ouais.
Même si, voilà, on est sur 4 personnes à l'illustration et on sent bien qu'il y a des designs et des coups de crayon différents selon les créatures qu'on va avoir en main. Il y a des styles que j'adhère plus que d'autres. Tu me dirais, il y aurait qu'un seul illustrateur, ou illustratrice sur ce jeu, ça m'aurait pas déçu, vraiment. J'aurais même peut-être préféré plutôt que quatre personnes qui ont des styles qui se rapprochent, mais qui sont pas tout à fait pareils. Ça se ressent rien que dans les ombrages, dans les petits détails sur certaines créatures. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont vraiment pas, où ça va être vraiment de l'aplat de couleur avec un peu d'ombrage, quoi. Et voilà, je trouve ça un peu dommage. Et
Ok.
sur la qualité du matériel aussi, j'en ai pas parlé. C'est des cartes de bonne facture, c'est des cartes tissées. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble.
Ouais, je vois tout à fait.
Donc voilà, plutôt bonne carte. Les couleurs sont belles et tout ça. Le plateau est de bonne qualité. C'est un petit plateau en forme d'étoile au centre de la table sur laquelle on va disposer les cinq familles. Ce qui peut gêner au niveau de la lisibilité des cartes quand on est de l'autre côté de la table parce que les cartes sont à l'envers, mais bon, en général on les lit quand on les sort, donc j'ai pas trouvé ça si contraignant que ça pour les joueurs. Le seul truc que je me dis à quoi ça sert, c'est il y a une magnifique figurine de Eternity dans le jeu, dans la boîte, une figurine en carton, pas en plastique non plus, qui ne sert à peu près à rien, hein, parce qu'on a déjà un jeton premier joueur en bois. Tous les
Ok.
jetons sont en bois, donc ça c'est agréable aussi au toucher. C'est des gros jetons qu'on va poser sur les cartes pour bien montrer, ça c'est ma carte. Je vais en faire ce que je veux, je vais la vendre ou je vais l'apprivoiser, mais voilà, ces jetons sont bien. Par contre, la grosse figurine en carton sert à rien, et dans la boîte du jeu, ils te disent ah, tu peux la placer au centre de l'étoile du marché, du centre de la table, ça fera son plus bel effet. Non, ça sert juste à rien, ça bousille la lisibilité parce que déjà, tu as des cartes à l'envers et de l'autre côté. Si en plus tu les vois pas, eh ben ça sert à rien. Non, vraiment, ce jeton, il est là pour remplir la planche de punch parce qu'ils pouvaient le faire, donc ils l'ont fait. Voilà. Mais c'est
Ah,
useless au possible.
je pense que ça va plus loin que ça. C'est un peu comme l'arbre de Everdell, tu vois, je dirais. C'est.
Bah, l'arbre de Everdell, il y a une volonté d'essayer de faire une construction 3D sur laquelle tu vas jouer, bon,
Oui, mais
qui
c'est pas parce qu'il y a une
apporte
volonté qu'elle est bonne.
Ouais, mais je veux
C'est.
dire, c'est. Ils essaient de l'intégrer au jeu. Là, ils essaient même pas vraiment sur
Ah, oui.
les règles du jeu. Il y a marqué, regardez, vous pouvez la placer là, ça fera son plus bel effet. Vraiment, il y a cette phrase. Et
Ouais.
j'étais en mode, mais pourquoi? Vraiment, pourquoi? Et j'en parlais du coup avec des copains éditeurs et ils me disaient, ils l'ont mis parce qu'ils avaient de la place sur la planche de punch, quoi.
Ok,
Ça
moi je
paraissait
pense.
un peu évident parce que ça leur coûte pas plus cher. Ils peuvent le faire, donc allez, ils le font. Ils n'avaient pas forcément d'autres idées peut-être que celle-là. Hein. Après, il faudrait demander à Mandou pourquoi. Ils sauront plus nous
Oui.
dire que des suppositions, hein, mais voilà, je trouvais que ça apportait pas grand-chose, quoi.
Moi, je veux bien émettre une autre supposition, mais
Vas-y.
encore une fois, ça reste de la supposition. Effectivement, ça ne leur coûte pas plus cher, donc ils ont autant le faire. Et en plus, à mon avis, ça leur permet de croire que le jeu a. Tu sais, ils parlent souvent de présence sur la table, les éditeurs, de délire que, comme ça, dans les salons, tu vois, ils peuvent mettre cette petite figurine et ça, tu vois, ça attire un peu les gens dans les salons parce qu'ils
Ouais, mais comme
voient
je te dis,
la figurine.
t'as vu, même si t'as pas joué au jeu, tu vois les graphismes, tu vois, il y a des couleurs quand même très flashy, tu vois ça sur une table, il y a ce plateau en forme d'étoile au centre de la table sur lequel on va disposer les cartes autour. Il y a quand même de l'attrait, tu vois, visuel déjà de base. Pourquoi aller mettre une petite figurine en plus qui n'apporte
Non, mais
rien au jeu?
après, moi
Vraiment.
je dis juste que c'est potentiellement leur
Ouais,
raisonnement. Je dis pas qu'il est
potentiellement. Ouais,
intelligent, ce
c'est clair.
raisonnement. Moi, je
Tu
suis
vois,
complètement contre ça.
le
Je trouve
matériel
que.
est vraiment beau, les petites pierres elles ont toutes des
Et
formes
voilà.
différentes, t'as des jetons, comme je disais, en bois plutôt larges que tu vas utiliser. Franchement, il y a du joli matériel, ça on peut pas leur reprocher. Il y a juste cette figurine, j'ai pas compris.
Ok,
Voilà, donc
ouais.
à vos suppositions si vous voulez dans les commentaires de pourquoi il y a une figurine dans Veil of Eternity. J'aimerais bien avoir vos avis. Et voilà. À peu près tout sur ce jeu. Donc, Veil of Eternity, un jeu de combo agréable. Je le recommanderais pas forcément si vous aimez vraiment les jeux à gros combos un peu hardcore où il faut se chauffer le cerveau. On n'est pas à ça. On n'est pas sur du Rise Arcana et tout ça. Mais voilà, on est sur un jeu léger qu'on va pouvoir sortir, je dirais, en initié. Parce que ça va quand même un peu plus loin que le familial, hein. Il y a du combo, et il va falloir essayer de faire de la vraie synergie entre les cartes. Mais moi, il sort. Il sortira encore. Je ne sais pas combien de temps, mais il est là. Est-ce qu'il apporte quelque chose au jeu à combo et au monde du jeu? Je ne suis pas forcément sûr, parce que c'est que des mécaniques qu'on a déjà vues et revues. Et encore une fois, pour moi, il y a mieux dans le combo, il y a mieux dans l'accessible sur ces jeux de combo. Mais il a le mérite d'être dans cette catégorie initiée. Moi, je trouve qu'il fait le travail. Après, je ne suis pas sûr qu'il reste dans les mémoires très longtemps.
Tu citerais quoi comme autre jeu de combo accessible?
Un qui a beaucoup plu, qui a fait parler de lui à sa sortie, bah c'est justement Everdale, je trouve. Qui est
C'est déjà
plus.
balèze quand même.
Ouais, tu trouves ça balèze?
Bah t'as quand même assez mélangé à une pause d'ouvrier. Tu vois, il y a pas mal
Ouais,
de
peut-être,
petites
ouais.
règles à la con. Je sais pas, moi j'ai l'impression, tu vois, que Res Arcana est plus simple que Everdell, tu vois.
Ouais, ben. En fait, parce que je le vois vraiment en mode optimisation, moi, Res Arcana, c'est peut-être aussi mon défaut de joueur. J'ai envie d'optimiser avec deux cartes sur le plateau, quoi. Alors que
Ouais.
vraiment, tu peux aller poser tes 8 cartes et faire ton petit business. C'est peut-être plus accessible au premier abord, Res Arcana, parce que tu as 8 cartes, tu dois te débrouiller avec, et même si ça synergise pas tant que ça, tu arrives à faire un truc. Alors que là, tu as un côté opportuniste qui fait que vraiment, si la carte elle te passe sous le nez, tu es un peu deg et tu vois ton adversaire qui s'envole et toi pas du tout. En plus accessible que ça en jeu à combo, là j'ai pas d'idée en tête, mais
Je pense à Tussi
ah, j'ai jamais joué ça.
mais qui est vraiment, je pense, en dessous de Veil of Eternity en termes de difficulté et d'accessibilité.
Ouais. Et
Largement, je
attends,
pense même. Bah, tu vas jouer
je
que
vais trouver.
4 cartes. Hein, donc. Mais ouais, ok, non, mais je voulais juste savoir ce que tu entendais par là. Pour dire qu'il n'est pas le seul, pour le coup, je pense que tu vois, peut-être qu'il se place dans un niveau d'accessibilité qui n'existe pas forcément encore. Et
Ouais, mais je pense
pourquoi
que
pas,
quand
hein.
même il est en initié dans la catégorisation en France qu'on a avec l'As d'Or. Pour moi, c'est
Ouais.
compliqué de le mettre en familial. Parce que jeu à combo, en fait, juste tout simplement, les jeux à combo, c'est pas accessible à tout le monde. C'est une mécanique que tout le monde apprécie pas, qui est pas forcément compréhensible par tous, de comprendre que cette carte-là peut synergiser avec celle-là, qui peut synergiser avec celle-là. Voilà. Pour moi, c'est pas forcément les mécaniques les plus accessibles pour tout le monde. Je trouve que Unfair est plus accessible, tu vois.
Ok, ouais. T'as un genre aussi qui est proche, c'est le deck building, tu vois, finalement. Et
Oui.
si je prends par exemple Shards of Infinity ou Eldorado, tu vois, on va être sur des deck building avec quelques combos, mais tu vois, ça reste assez simple à aborder. Alors, on est plus dans la combo dans Shards
Oui, tout à fait.
ou
Bah après,
dans
c'est la
Ascension.
recherche
Ascension.
de charge, justement. Enfin. Moi, c'est aussi encore peut-être une vision de joueur que j'ai, mais Shards, il y a une course d'arriver à faire un peu ton combo pour atteindre ton fragment d'infinité. Et donc, pareil, il y a une certaine optimisation que tu peux aller chercher. Et pour moi, il faut aller essayer de vraiment d'acquérir la bonne carte au bon moment dans Shards. Alors que dans Veil of Eternity, tu peux. Voilà, des fois, t'as pas le choix, t'as les cartes qui sont devant toi. Surtout, tu vois, comme je disais, t'as un va-et-vient sur le choix des cartes au milieu de la table. Donc tu vas te retrouver des fois avec des choix vraiment restreints. Voilà, la carte tu la vendras, mais sauf que quand tu la vends, tu as déjà trop de ressources en poche, tu peux pas en accumuler plus. Donc tu vas la prendre pour potentiellement la défausser plus tard pour une action spécifique d'une autre carte. Voilà, tu as quand même ce truc-là où des fois tu te retrouves face au mur et tu dis bon bah je vais faire avec, de toute façon j'aurai
Ouais.
peut-être une opportunité plus chanceuse sur le prochain tour, quoi.
C'est plus flexible.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, je pensais à ça aussi parce que tu vois, dans Ascension ou dans Shards of Infinity, t'as aussi bah, déjà le côté rivière de cartes. Donc tu as des cartes différentes, pas comme dans Dominion, tu vois, où t'as des cartes prédéfinies en début de partie. Donc tu vas voir des cartes et donc tu vas devoir de manière opportuniste construire ton tableau ou ton deck. Alors en l'occurrence dans Ascension c'est un deck, tu vois. Mais dans Veil of Eternity la différence c'est que c'est un tableau. Et surtout il y a le côté, il y a cinq couleurs qui ont chacune un peu leur personnalité, qui t'aident et qui te guident un peu du coup pour savoir vers où tu dois aller en termes de synergie, je pense. Ce qui rend peut-être le truc un peu plus accessible aussi, tu vois, l'air de rien.
Ouais, peut-être de non mais
Bah,
c'est pas une
peut-être.
réflexion que je me suis faite forcément sur ce jeu. Pour moi, il manque d'accessibilité sur. J'ai joué avec des joueurs qui avaient une dizaine de parties comme moi Et on voit qu'il y a une lecture du jeu qui est quand même très différente, surtout quand on a l'habitude des jeux à combo et tout, on se dit vraiment ça, je peux pas le laisser à l'autre. Après, voilà, on peut y aller légèrement quand même. Au pire, la partie finit en 10 tours. Je dirais, on regarde celui qui a le plus de points de victoire et il a gagné. Mais tu cherches à aller atteindre ses 60 points pour battre les autres, tu vois. Non, mais peut-être que tu as raison qu'il est plus accessible que ce que je le vois. C'est possible. Après, pour moi, il ne restera pas dans les mémoires du jeu de cartes à combo, quoi. Il y a beaucoup plus intéressant, beaucoup bien mieux que celui-ci, quoi.
Ok, ça marche.
Voilà, je refais la petite fiche cinématique. Donc, c'est The Veil of Eternity, un jeu de 2 à 4 joueurs pour une durée affichée de 30 à 45 minutes. À 2 joueurs, on tombe à 20 minutes, hein, quand même. Pour un âge de 14 ans et plus, un jeu de Eric Hong, illustré par Jawi Eva Gao, Gauthier Maya, Stefano Martinez et Erika Tormen. Et un jeu publié chez Mando Game. Voilà.
Ça
Et du
marche. Eh bien,
coup,
merci Astien.
c'est fini pour moi aujourd'hui. De quoi vas-tu nous parler, Pionfesseur?
Eh bien, moi, je vais parler de Kaori. Kaori, c'est un jeu de. Alors, je crois que ça se prononce Charlec Courono, un auteur français donc. C'est illustré par Jérémy Fleury. C'est édité chez Débac le jeu. C'est pour 2 à 4 joueurs. Bon, voilà. Parce qu'ils ont un peu forcé, quoi. C'est annoncé pour 40 à 60 minutes pour 10 ans et plus. Donc, Kaori, pour un tout petit peu de contexte, c'est un jeu de Charlec Courono. C'est un peu un nouvel auteur dans le milieu depuis quelques années. Il a fait quelques jeux. Alors, son plus connu, je pense, ça doit être La Bête.
Oui, qui est arrivé l'année dernière, il me semble.
Ouais, il y a 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Il a fait aussi Le Grand Voyage, que vite fait connu. Moi, j'ai juste joué au Grand Voyage, que j'ai trouvé assez quelconque. Et La Bête, j'ai pas pu jouer, mais ça m'attire quand même parce que c'est un jeu de trac, alors pourquoi pas.
Ouais, ça ressemble un peu à
Qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Dracula, comment il s'appelle?
Ah, La Fureur de Dracula.
La fureur de Dracula.
Ouais. Mais justement, j'ai l'impression que ça ressemble un peu trop à ça et je suis pas sûr que ça innove beaucoup dans le genre. Donc voilà, spoiler tout de suite. Kaori, pour moi, c'est son meilleur jeu et de loin, je pense. Je pense
Ouais.
que là, il a touché à quelque chose de vraiment très très intéressant. Donc en termes de mécanique ou de genre, Kaori, c'est un jeu asymétrique. Pour moi, c'est même un jeu à 4 joueurs asymétriques, on va dire.
On
Donc.
en parlera après.
Voilà, on en reparlera après si vous voulez, mais dans la branche, on va dire, de ce qu'on appellerait le gameplay asymétrique, c'est-à-dire que c'est pas juste une légère asymétrie au sens vous avez un petit pouvoir et puis voilà. Là, c'est vraiment vous incarnez une faction qui va jouer globalement très différemment des autres factions.
Oui, parce que c'est,
Et
tu l'as pas dit, mais c'est un jeu de contrôle de territoire
c'est
asymétrique.
ça. Mais alors, justement, en termes de thématique. En fait, on va jouer un peu l'histoire des 2 derniers siècles de la Nouvelle-Zélande. Et donc, les 4 factions, ça va être les Anglais qui colonisent l'île, les Maoris qui étaient déjà là, quoi, les Kiwis qui étaient également déjà là et qui sont des animaux. Donc, du coup, il y a une faction qui va jouer des animaux et il y a une autre faction qui va jouer d'autres animaux, c'est les Possums qui ont été amenés par les Anglais dans leur bateau. Déjà assez rigolo, il y a 2 joueurs humains, 2 joueurs animaux, quoi. Donc ça fait évidemment penser tout de suite quand on dit ça. Alors ouais, comme tu as dit, c'est du contrôle de territoire, donc il y a une carte, il y a des territoires sur lesquels on va se déplacer. On pense immédiatement à Route, un
C'est
jeu à
ça,
4 joueurs
totalement.
asymétrique. Voilà, on se dit ça va être un
Avec du
Route,
contrôle de territoire.
avec de la baston un peu, tu vois, du
Non,
contrôle de territoire.
franchement, moi, on me l'a présenté, c'est ça que j'ai vu en première. Hein.
Évidemment. Tout le monde va dire c'est un peu un route accessible quoi. Tu vois, c'est un route hyper simple en termes de règles et aussi même en termes de durée, c'est beaucoup moins long.
Largement.
Mais moi, je pense aussi à d'autres jeux comme Vast ou
Ouais.
les jeux Coin pour citer des jeux comme un peu dans le style de route, donc comme Cuba Libre par exemple. ou même des jeux asymétriques style Villainous, pourquoi pas, même si là du coup il n'y a pas l'aspect contrôle de territoire, mais juste pour le côté très asymétrique, hein, entre très les factions. Asymétrique, ouais. Voilà, je vous invite à aller réécouter un vieux podcast de Thermofromage qu'avaient fait Flavien et Père Castor sur l'asymétrie, qui était très intéressant, où justement il distait un peu les divers genres d'asymétrie qui existent. Et donc là, en l'occurrence, comme dit, on est vraiment dans du gameplay asymétrique, quoi. Donc c'est pas non plus 100% comme route, où là vraiment le gameplay est très très asymétrique entre les factions. Là, en fait, chaque faction a une sorte de base commune. Il y a une mécanique qui est commune pour tout le monde. Et ça va être plutôt dans le scoring, dans les actions qu'on a, qu'il va y avoir des choses différentes entre les factions. Mais c'est suffisant pour donner un sentiment de jeu différent, en fait. Donc, ouais. Vraiment, on va avoir la même sensation que dans Route, mais sans la complexité. C'est ça qui est bien quand même. T'as pas, dans Route, t'es un peu obligé d'expliquer quatre règles différentes, quoi, tu vois.
Oui. Là, alors que là, t'expliques, voilà, chaque petit pouvoir un peu spécifique de chaque faction en début de partie, et puis ça roule, quoi.
C'est ça. Ouais, et encore,
jouer de la même façon.
Tu peux même vite fait juste expliquer globalement qu'est-ce qu'elle fait ta faction, ça suffit presque, tu vois. Parce que il y a tellement des bonnes aides de jeu derrière que tu peux juste jouer au fur et à mesure et tu verras bien, tu vois.
Pour moi, c'est ce genre d'asymétrie là où j'apprécie l'asymétrie, hein, mais tu vois, dans Route, t'as des gameplays différents avec un objectif commun qui est d'arriver à 30 points de victoire. Après, chacun va avoir sa façon de l'atteindre. Là, on a des scorings différents, tu vas en parler, je pense, après. Mais par contre, on va tout jouer de la même façon, c'est on va choisir les cartes de sa main et on va les jouer. Après, voilà, les cartes, elles ont des actions différentes, mais c'est la même action, quoi. Donc, quand le gameplay est identique entre tous les joueurs, c'est toujours plus facile à expliquer et à aborder pour tout le monde, je trouve.
C'est clair. Du coup, en termes de sentiments, parce que bon, là, on parle de route, on fait que des références et tout ça, mais le sentiment dont je parle là, qui est similaire à route, en fait, c'est cette idée d'observer un genre d'écosystème qui va se dérouler au cours de la partie. Comment les quatre factions vont interagir entre elles. Et en fait, tout va un peu s'entremêler comme ça. Moi, je trouve ça assez fascinant de regarder. Ah ouais, lui, là actuellement, c'est telle faction qui est en alliance avec celle-ci, puis ça, je sais pas, trois tours plus tard, c'est l'inverse, quoi. Ils deviennent soudainement ennemis parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça. Donc, tu vois, je trouve ça cool parce que ça fait un truc qui évolue et qui est presque intéressant plus à observer qu'à jouer, quoi, tu vois. J'exagère, hein, mais c'est aussi intéressant à observer qu'à jouer, je dirais.
Non, mais encore une fois, dans ces jeux asymétriques, je te rejoins, hein, sur le côté, y a, comme dans Route, il y a une narration qui se crée dans le jeu, en fait. Et ça, même en tant qu'observateur, c'est juste, c'est plaisant à voir, quoi.
Et donc justement, c'est quoi cette mécanique de base que tout le monde a? Ben, en fait, moi j'appellerais ça tout simplement du card-driven. Donc c'est-à-dire que tu as trois cartes en main. Enfin, c'est même du card-driven, mais ultra simplifié encore une fois. Parce que tu as juste trois cartes en main et basiquement tu vas en jouer une à chaque tour, quoi. J'y reviendrai après, c'est un peu plus complexe que ça, mais globalement c'est ça, quoi. Du coup, ça aussi c'est assez cool parce que ça va faire des actions relativement simples, quoi. C'est pour ça que je disais que tu peux commencer le jeu sans expliquer tout. Parce que tu vas juste dire, bah voilà, à chaque tour tu joues une carte et puis voilà. Et tu verras bien au fur et à mesure de la partie quand tu vas piocher des cartes, qu'est-ce qu'elles font. Et puis tu décideras à ce moment-là, tu vois. Donc la complexité du jeu, elle n'est pas dans les règles, elle est finalement dans les actions et dans les cartes. Et vu qu'à chaque manche de jeu, on va piocher tout notre paquet, parce que c'est un paquet de, je sais plus, 10 cartes quoi à peine, et ben à la fin de la première manche, tu as 100% vu toutes les actions possibles de ta faction. Et donc à la deuxième manche, c'est reparti pour un tour. Et donc là, tu sais ce que tu peux faire potentiellement. Et je trouve que c'est vraiment impressionnant du coup en termes d'ergonomie, comme c'est simple, quoi. Moi, ça me fait penser aussi à Fantasy Realms, où genre la règle de Fantasy Realms, elle tient en une demi-page. Tu vois, tu pioches une carte, t'en défausses une, voilà. Et quand il y a 10 cartes au milieu de la table, c'est terminé. Mais la complexité va être dans les effets des cartes que tu vas lire, etc. Alors, Fantasy Realms, pour le coup, ça te fait des choix beaucoup plus prise de tête parce que tu dois réfléchir aux synergies entre tes cartes.
Totalement. Que là, c'est vraiment... fois, tu sais pas trop où tu mets les pieds dans Fantasy Realms, alors que là, quand même, tu vois, t'as une dizaine de cartes, non, dans ton deck, ou 8, non, 10,
mais oui,
il me semble.
Mais t'en as que 3 en main, en fait, tu vois, donc t'es tu vois, t'es pas surchargé cognitivement de trucs. Et moi, j'aime bien ça. Tu vois, j'aime bien. T'as quand même du choix, mais t'es pas en mode oh là là, il faut que je calcule, il faut que je réfléchisse. Non, c'est hyper, hyper fluide, tu vois, hyper simple. En plus de ça, parmi toutes ces actions, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a des actions qui sont. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui sont très directes contre les autres. Vraiment, quand on fait des actions, on va emmerder un joueur adverse autour de la table. Parfois plusieurs, mais souvent c'est un seul. Du coup, ça en fait un jeu. Alors, les Anglais et les anglophones, ils aiment bien dire des jeux politiques. C'est des jeux où on doit soit négocier, soit chouiner un peu pour dire non, mais il faut plutôt que tu tapes sur lui parce qu'il est en train de gagner. Ah non, mais tape plutôt sur elle parce que regarde, au prochain tour, elle va gagner 10 points. Tu vois, ce genre de truc.
Ouais, un jeu de chouineur, quoi.
Un jeu où tu dois déduire ouais, sur qui tu dois taper, tu vois.
Ouais. Je vois l'idée.
Et du coup, ça, je trouve ça marche vraiment bien parce que l'asymétrie sur la manière de gagner des points de victoire va brouiller les pistes. Par exemple, tu vois, les kiwis, eux, ils sont déjà tous... tous les kiwis sont là en début de partie. Et en fait, à la fin, il va gagner un point par kiwi qui est encore sur le plateau, vivant. Et en fait, il va faire que perdre des points puisqu'il y a des kiwis qui vont mourir. Et à la fin, bah, ceux qui te restent, c'est tes points. Donc, le kiwi, c'est comme s'il commençait la partie avec le maximum de points et il va faire que en perdre. Les possums, eux, par exemple, ils ont un scoring en boule de neige. C'est-à-dire que si on les laisse faire, eh ben, ils mettent de plus en plus de points. Donc, pour eux, c'est un jeu à moteur. L'anglais, lui, il va gagner des points par à-coup. C'est-à-dire qu'il ne gagne rien, puis d'un coup, bam, il gagne 6 ou 10 points, tu vois. Non, peut-être moins, mais alors, t'as compris l'idée. Ouais. Et la Maori, elle va gagner ses points très doucement, mais c'est très difficile de lui enlever une fois qu'elle les a acquis. Donc, tu vois, ça me fait vraiment penser à Hégémonie. Tu sais, le jeu là où tu joues des classes sociales.
Ouais.
Parce que dans Hégémonie, il y a aussi ce truc-là. Tu vois, le capitaliste, il gagne des points par à-coup. Les classes populaires, je sais plus comment elles marquent des points, mais tu vois, enfin, j'avais ressenti ce côté de chacun marque ses points de manière différente, et donc ça brouille les pistes, et donc ça crée des mécaniques de chouinage autour de, enfin, des dynamiques de chouinage autour de la table. Tu vois, vraiment, chacun doit justifier de pourquoi c'est pas lui qui est en train de gagner. Ouais. Je trouve ça très drôle, tu vois. Donc, ça, du coup, ça fait une alchimie, tu vois, qui marche bien. Alors, je précise quand même que j'aurais aimé qu'il y ait plus de négociations. C'est-à-dire que là, il y a du chouinage, mais il n'y a pas de la négociation. Vraiment, c'est très rare qu'on négocie. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des dynamiques en mode « Ah, ben vas-y, t'emmerdes la Maori, en échange, on fait une alliance et moi, je t'attaque pas. » C'est possible, mais en fait, il n'y a rien dans le jeu qui t'incite à le faire. Disons que pas plus que dans Carcassonne, par exemple. Tu vois, Carcassonne, quand tu joues à 3 joueurs, ça pourrait devenir un jeu de négociation. Tu vois, tu pourrais dire
oui,
vas-y,
je mets zone là, je te laisserai celle-là.
Voilà, mais rien ne t'y engage.
On réunit pas nos châteaux, tout ça. Je trouve que quand même cette négociation, elle y est avec l'anglais, le joueur anglais qui lui a une certaine balance et une certaine gestion de l'équilibre sur le plateau, justement.
Ouais, mais c'est pour ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté réfléchir à sur qui tu dois taper, tu vois. Et c'est-à-dire qu'effectivement, l'anglais, à un moment donné, peut se dire « Ah ouais, les possums, ils sont en train de snowball, il faut que j'arrête d'emmerder les kiwis et que je passe en mode chasseur. » Tu vois. Et encore, il n'a pas un énorme contrôle là-dessus. Hein, mais...
Il peut avancer son jeton pendant la partie et il me semble que les kiwis, ils peuvent reculer. Non, ils peuvent aussi avancer le jeton et les possums peuvent le reculer.
Donc, oui, tout à fait.
Il y a quand même un truc de recherche d'influence avec ces cartes-là que tu vas jouer plutôt que d'autres.
Ouais, et puis déjà, c'est pas énorme parce qu'en fait, il a beaucoup plus de cartes pour couper des arbres ou pour tuer des possums que modifier ce statut.
Ouais.
Mais comme tu dis, ouais, voilà, c'est moi, mon point, c'est surtout que j'aurais aimé de la négociation, tu vois. J'aurais aimé puisse s'échanger des trucs et tout, et ça aurait rendu le jeu encore plus politique, tu vois.
Après, ça complexifierait peut-être plus le jeu, ce genre
peut-être,
de choses,
ouais,
tu vois.
Je sais pas
si
t'avais
joué à... Alors, qui est pas tout à fait asymétrique, hein, mais c'est Rising Sun.
Non, j'ai pas joué à Rising Sun. J'aimerais bien.
Énormément de discussions autour du plateau avant la phase de déplacement et de contrôle de territoire. Parce qu'en fait, on peut s'allier pour une manche pour gagner les pouvoirs des adversaires pour cette manche-là. Donc, ouais, bien tu sûr, vois, y a, ouais. La politique est trop présente, du coup, au final. Tu te retrouves avec une politique beaucoup trop... qui prend les trois quarts du jeu, quoi.
Ouais, ouais, mais après, je peux te prendre des exemples où ça marche bien. Mais tu vois, je te prends Rencontre Cosmique, je trouve que la politique, ça va, tu vois, là-dedans.
Ouais, ouais.
Mais voilà, après, tu peux faire des jeux... enfin, bon, de toute façon, c'est pas mon problème, là. C'est le problème de l'auteur et de l'éditeur, ça, de faire un jeu qui marche bien. Moi, ce que je constate juste, c'est que il n'y a que du chouinage et il n'y a pas de négociation, et je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est tout. Donc ne vous attendez pas, quand je dis un jeu politique, à de la négociation. C'est pas exactement la même chose. C'est surtout ça que je veux dire. Mais j'aurais bien aimé, quand même. Du coup, avec tout ce qu'on dit, on disait il y a une histoire qui se raconte, etc. Moi, ça me fait penser à ce que j'appellerais... Enfin, pas ce que j'appellerais, ce que Jean-Michel Grosjeu appellerait un jeu d'immersion. Je sais pas si tu connais Jean-Michel Grosjeu.
Ouais, ouais, ouais.
C'est un vidéaste qui fait des vidéos très très cool et que je respecte beaucoup. Et qui a fait des vidéos justement où il théorise ça, il appelle ça les jeux d'immersion. Et en gros, c'est l'idée que, tu vois, bah là par exemple, le jeu va raconter l'histoire de la Nouvelle-Zélande, tu vois, enfin du moins une partie de l'histoire. Et les jeux d'immersion, c'est des jeux un peu qui te racontent une histoire, qui priorisent le fait de raconter une histoire et qui donc vont avoir des mécaniques qui vont être cohérentes avec l'histoire qui est en train d'être racontée. Moi, je trouve ça cool qu'on puisse enfin avoir des jeux d'immersion légers. Parce que d'habitude, les jeux d'immersion, on a plus tendance à penser à des jeux qui durent 8 heures ou avec énormément de règles très complexes. Là, du coup, on a un jeu simple, épuré, qui a pris l'essence en fait du style jeu d'immersion et qui l'a rendu, qui en a gardé que la substance, tu vois, la plus simple substance. Et donc ça, c'est cool parce que il prouve quelque part ce jeu qu'il n'y a pas besoin de simulationnisme à outrance ou de zoom énorme sur des mécaniques précises. Il suffit de dézoomer le truc pour faire un jeu vraiment simple et bon, et ça marche, quoi, tu vois. Alors, évidemment, il y a des inconvénients à ça, hein, quand on dézoome, c'est que c'est pas forcément bien simulé partout. Typiquement, les Maoris, je suis pas sûr que, pendant que les Anglais les colonisaient, ils étaient en mode « Oh, bah oui, construisons des temples, tout va bien », voilà. Donc il y a peut-être une petite invisibilisation, là, de certaines luttes qu'il y a eu. De même, les Kiwis, pour les besoins du gameplay, ils ont dit que c'était eux qui déclenchaient les catastrophes naturelles. Donc ça, c'est ouais, assez rigolo, tu vois. Mais en vrai, je trouve que c'est pas grave pour les kiwis, en l'occurrence, parce que ça va donner un peu de personnalité au jeu, quoi. C'est-à-dire que quand tu joues le kiwi, c'est super satisfaisant de te dire « Ah ouais, je suis nul, mais j'ai une espèce de puissance karmique, tu vois. » C'est-à-dire que je peux me venger des autres en leur balançant des éruptions volcaniques dans leur gueule, tu vois. Et y a un truc de mise en scène qui marque beaucoup les joueurs avec qui j'ai joué, c'est que dans le paquet des kiwis, ils ont une carte où il y a juste une illustration, c'est la carte d'héritage, voilà, pour ceux qui ont joué au jeu. Moi, j'explique pas toutes les règles, hein, on s'en fout. Hein. La carte d'héritage, il y a juste un kiwi en premier plan, et en arrière-plan, il y a un volcan en éruption, tu vois. Et je trouve que ça résume bien le truc, genre le kiwi, il est tout nul, mais derrière lui, il est capable de te balancer des énormes trucs dans la gueule. Et je trouve que voilà, ça raconte un truc, tu vois, il se passe quelque chose, et là c'est un truc presque surnaturel, tu vois, c'est de dire, ouais, les kiwis c'est un peu comme l'âme de l'île, et ils sont capables de contrôler les forces naturelles de l'île. Donc voilà, c'est pas forcément réaliste, mais le fantasmagorique de l'histoire ne me gêne pas.
Est-ce qu'il y a, j'ai pas lu les règles, moi j'ai joué que sur Cannes, est-ce qu'il n'y a pas une note d'intention de l'auteur sur justement ce... Bah, cette non-envie forcément de coller à l'histoire alors, que fait historique, quoi.
Ouais, je crois que dans la règle, il y a des notes d'intention, des trucs comme ça, mais moi je lis pas ça parce que j'estime que pour... Enfin, je m'en fous, globalement. Ça pourrait m'intéresser.
Tu vois, les Maori, ils construisaient sûrement pas des temples quand ils se faisaient envahir par les Anglais. Peut-être que... Tu vois, il veut se détacher de ça et qu'il le dit, voilà, ça ne colle pas à l'histoire, on est bien d'accord.
Ouais, bien sûr. Ouais.
J'ai essayé de trouver un gameplay qui soit conciliant pour tous les joueurs et qu'il y ait du fun, quoi.
Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'estime, là, en fait, je suis en train de faire une critique et j'estime que pour une critique, je m'en fous de l'auteur. C'est pas ce qu'il voulait faire, c'est pas la question. Ce qui m'importe, c'est comment moi je l'ai ressenti, tu vois.
Ok, ok.
Voilà. Vous irez lire La mort de l'auteur de Roland Barthes, qui explique pourquoi je pense ça. On n'est pas là pour faire un podcast de 3 heures sur ça. Mais en tout cas, je suis à peu près sûr que les Maoris, c'est pas fait dans la paix et la joie. La colonisation par les Anglais, hein, ça je...
On est bien d'accord.
Je suis à peu près sûr. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que le système de carte driven, il est un poil plus compliqué que juste choisir une carte. En fait, c'est qu'à chaque tour, vous choisissez en fait deux cartes. Une carte que vous allez vraiment jouer, et l'autre carte que vous n'allez pas jouer pour l'action, mais que vous allez jouer pour un petit chiffre qui est sur la carte, qui représente votre initiative. En gros, ça va déterminer dans quel ordre on va jouer ce tour-ci. Moi, j'ai trouvé que l'initiative, c'est pas hyper intéressant. En fait, tu t'en fous la plupart du temps de jouer en premier ou en dernier. Ça a parfois de l'importance, hein, je le précise, parce qu'il y a forcément des gens qui vont me dire « Oui, mais ça a de l'importance. » Oui, je sais que ça a de l'importance par moment, mais on va dire 90% du temps, ça sert à rien. Mais la mécanique est quand même intéressante parce que ça vous force, en fait, à chaque tour, à abandonner une carte.
Ouais. Ouais, ouais.
Alors, ça me fait penser à Un monde sans fin. C'était un jeu de gestion où à chaque tour tu jouais une carte et t'en défaussais une, comme exactement pareil quoi. Et en fait ça donne un côté stratégique, tu vois. Ça me fait penser aussi à Race for the Galaxy, alors dans une mesure beaucoup plus épurée, mais Tom Lehman, donc l'auteur de Race for the Galaxy, avait un terme pour ça que je vais réutiliser, c'est le card shifting, qui n'est pas très utilisé comme terme, mais c'est l'idée que dans Race for the Galaxy tu vois beaucoup de cartes passer. Et tu dois en abandonner au fur et à mesure, parce que le prix pour jouer une carte, c'est d'en défausser d'autres. Et bien là, c'est un peu un mini card shifting, tu vois, c'est-à-dire que à chaque tour, tu dois abandonner une carte, et donc finalement, tu vas voir passer tout ton deck, mais sur tout ton deck, tu vas en jouer à peu près que la moitié. Donc tu dois faire des choix, tu dois abandonner des choix, et donc je trouve que ça rend ton choix d'autant plus stratégique, puisque tu dois te dire « Ah ouais, quelle action potentielle je veux garder pour plus tard, parce que peut-être ça me servira. » Donc voilà, c'est tout con, mais en fait, c'est là qu'on voit que la mécanique de card driven de Kaori, elle est simple, un choix parmi trois, elle te surcharge pas cognitivement et tout ça, mais elle est pas simpliste, tu vois ce que je veux dire, elle est pas, elle cherche pas à faire un jeu trop simpliste et rapide. Je dis ça, pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux de société récents. Qui tombe, tu sais, dans le travers du mini Eurogame. Donc, tu sais, les jeux comme Cascadia, comme Acropolis, comme des trucs comme ça, où tu sais, t'as toujours une mécanique de prise d'éléments que tu mets dans un tableau building devant toi, enfin un tableau devant toi, et tu vas scorer des points, voilà, de 15 000 manières différentes. Et ces jeux-là, je trouve qu'ils ont un problème, c'est qu'ils ont une mécanique simple, et ils ont envie d'être rapide. Et très souvent, on est frustré parce que le jeu finit un peu trop tôt et t'as pas le temps de faire des choix stratégiques. Ça a été beaucoup reproché, par exemple, à Dice Forge, que une fois que ton moteur il commence à être construit, le jeu s'arrête. Récemment, il y a Spellbook aussi qui a ce problème-là. Mais voilà, la plupart de ces mini-euros ont ce problème-là. Et ben, dans Kaori, ce qui est très intelligent, c'est qu'il y a une mécanique simple, mais la partie est quand même relativement longue. Il y a quand même 5 manches. Tu sais, quand je disais qu'on piochait tout notre paquet, là, ça va arriver 5 fois dans la partie. Donc, tu vas faire 5 fois le tour de ton paquet. Et ça donne le temps aux choses de devenir stratégiques, tu vois. De voir sur le long terme et de réfléchir, tu vois. Et de voir, comme dit, l'histoire se dérouler. Et donc, c'est parfaitement cohérent avec un jeu d'immersion. Et ben là, franchement, bravo pour ça, c'est monsieur Charlec Couronneau. Hein, bravo pour ça, c'est très très bien. Ça fonctionne du feu de Dieu. Tu vois, vous avez choisi le meilleur temps de jeu possible, je pense. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la mécanique. Alors évidemment, bah, c'est un jeu asymétrique, donc on a envie de rejouer pour tester un peu tous les peuples.
Un truc dont tu n'as pas parlé,
Dis-moi.
On a de la symétrie, mais en plus on peut débloquer des petits pouvoirs tout au long de la partie.
Ouais, c'est ça, chaque faction a ses petits pouvoirs à débloquer, bon. Ça fait partie de la narration et ça fait que d'une partie à l'autre, la narration peut partir dans des embranchements différents. C'est vrai que ça peut beaucoup jouer en fait sur la manière dont la partie va se résoudre. Je suis d'accord avec toi. En termes de mise en scène, ce qui est cool, c'est que, alors, tu sais, d'habitude, moi, j'aime pas trop les jeux surproduits et tout ça, et je trouve que des jeux qui ont des meeples, tu sais, avec des formes, c'est assez énervant parce que tu dis pourquoi tu me fais des meeples avec des formes, ça sert à quoi? Et là, je trouve que c'est un jeu où ça, c'est plutôt cohérent, en fait, de faire ça. Donc, tu vois, le kiwi va avoir une forme de kiwi, le possum une forme de possum, etc. En fait, ça marche bien parce que ça permet plus facilement de distinguer sur le plateau les différents peuples. Et je trouve que ça a vraiment un effet visuel pour chaque peuple. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, le kiwi, on voit qu'il est très présent en début de partie, bah, un peu comme les chats dans Route, tu vois. Et le kiwi, lui, il a aussi un truc en termes de mise en scène, c'est qu'encore une fois, il déclenche des catastrophes naturelles. Et donc, par exemple, quand il va faire le volcan, il va genre raser tous les pions qu'il y a sur deux cases adjacentes. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc de genre, tu sais, tu prends avec tes grosses mains tous les pions et tu dis, tiens, tout ça meurt, tu vois, et tu le balances en dehors du plateau. Je trouve, voilà, tu vois, il y a vraiment des trucs très violents pour le kiwi en termes de mise en scène, et c'est très satisfaisant, tu vois, de prendre ces pions-là. L'anglais, tu vois, par exemple, il va vraiment ressentir son expansion parce qu'il n'y a pas que il y a son pion personnage, mais il va aussi poser des routes un peu partout. Donc l'île va devenir de plus en plus rouge comme ça, tu vois. Et après, il va sentir qu'il peut faire des espèces de gros arrachages où plac, il prend tous les arbres qui sont sur sa route. Tu vois, il y a vraiment des effets de mise en scène très cool, quoi. Bah, le possum, pareil, lui, tu as le sentiment qu'il pullule. Tu as genre 15. 15 possums réunis dans 3 ou 4 cases, tu te dis,
Ouais,
waouh,
clairement,
ici,
ouais, il y a des gros paquets qui sont là.
des gros paquets qui apparaissent. Et la Maori, elle a juste un pion. Donc, tu vois, elle est très solitaire. On sent que c'est le personnage qui a juste envie qu'on lui foute la paix. Et que,
Ouais,
genre,
elle met
elle. Re...
des toutes petites huttes sur le plateau, quoi. Vraiment, c'est les plus petits
Ouais.
meeples du jeu. C'est des petites maisons. Donc, tu vois qu'ils sont là, mais le but, c'est pas de prendre là toute la place. C'est
Ouais, c'est ça.
d'être là, quoi.
Et du coup, elle cherche pour pouvoir construire ses huttes, elle cherche à virer les autres, tu vois. Cassez-vous, je veux construire mes trucs, tu vois. Parce que pour avoir le droit de construire, faut qu'il y ait pas de kiwi, pas de possum, pas d'anglais, faut qu'il y ait rien sur la case, tu vois, à part un arbre. Donc voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui, voilà, en termes de mise en scène, ça fonctionne. Tu vois, on parlait tout à l'heure de ta grosse figurine là qui servait à rien dans Veil of Eternity.
Éternité, oui.
Ben là, je trouve que les figurines, il se passe quelque chose, tu vois, et elles ont chacune une manière très différente d'occuper l'espace, en fait, l'espace de l'île.
Ouais, je suis d'accord. Nous, ce qu'on a trouvé comme défaut sur notre partie, c'est que quand même les figurines sont plutôt grosses pour le
Ouais.
plateau. Et en fait, à par moment, il y a des endroits qui peuvent être très surchargés et ça apporte un manque de visibilité et de lisibilité sur le plateau. Toi, en fin de manche, tous les endroits où il n'y a pas d'armes mais qu'il y a encore des kiwis, les kiwis meurent. Et
Oui.
nous, sur deux manches différentes, on s'est retrouvés à se rendre compte, après un tour de jeu,
Un
ah, mais en
kiwi
fait, il
avait
n'y a pas encore des
survécu.
kiwis ici, et ici, il ne devait plus y en avoir. Donc tu vois, t'as quand même, c'est très chargé, le plateau, et tu peux avoir un petit manque de lisibilité dû à tout ce matériel.
Surtout avec nos pions un peu spéciaux hein, qu'on peut rajouter. Ça peut manquer un peu de lisibilité. Moi, je trouve que globalement, ça va, tu vois. Voilà. Bon, après, ouais, on pourrait reprocher quelques trucs. Non, moi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Éventuellement, il y a des règles pas toujours très bien écrites. Ça, c'est. Mais bon, les éditeurs, moi, j'estime qu'aucune règle n'est bien écrite, donc voilà.
J'ai pas lu. Après, tu vois, en chose à lui reprocher, tu expliquais tout à l'heure que, en fait, au bout d'un tour de jeu, tu as compris comment ta fonction fonctionnait parce que tu as vu tous les pouvoirs passer dans tes mains. Mais en fait, tu as ce truc-là où tu vas pas expliquer chaque carte de chaque faction à chaque joueur parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Donc, on a tous un petit livret explicatif de nos pouvoirs. Et en fait, nous, on nous a présenté le jeu et on nous a dit, allez-y jouer. On était en mode, mais ok, mais on sait pas qu'est-ce qu'on va faire comme interaction et tout ça. Non, mais c'est marqué sur les cartes, vous allez voir. Tu vas passer ta première manche à regarder ce problème, enfin, ces pouvoirs-là et à regarder ton petit livret. Et ça va ralentir quand même le jeu. Je trouve qu'il y a quand même ce côté-là où, tu vois, tu disais que
Ouais,
c'était
ouais.
facile à expliquer, mais comme chaque carte de chaque faction est vraiment assez différente des autres. Bah, chacun a un petit moment de roulement au début qui va être un peu lent et mou, quoi.
Moi, je pense aussi qu'il faut bien l'expliquer. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je pense qu'il ne faut pas expliquer toutes les actions des autres, mais juste expliquer globalement ce que chaque faction fait, tu vois.
Ouais, mais je te dis, c'est ce qu'on nous a expliqué. Alors peut-être que
Ah ouais, ok.
l'animatrice l'a pas forcément bien fait. Hein. Je sais
Peut-être.
qu'on était un peu paumés. Elle nous a lâchés là-dedans. Elle nous dit voilà, allez-y. Et oui, mais les points de victoire et du coup les cartes, genre elles fonctionnent comment? Ah, mais ça c'est marqué sur votre livret. Vous pouvez voir. Et en fait, on s'est
Ah
retrouvé un
ouais.
peu largué là-dessus. Bon, après c'est une
Non mais.
animation en salon. Hein. On est d'accord. C'est pas ce qui t'arrive en soirée jeu avec tes joueurs habituels ou autres.
Ouais, c'est ça.
Mais voilà, j'ai trouvé que quand même, tu lâches un peu le joueur avec sa faction et tu lui dis maintenant, essaie de la prendre en main parce que tu vas la découvrir au fur et à mesure de la première manche, quoi.
Et moi, je trouve que c'est un truc un peu typique justement des jeux d'immersion. Je reprends encore une fois la définition de Jean-Michel Grosjeu. Tu vois, c'est l'idée que tu vois, ton jeu, c'est pas comme dans un jeu de gestion, par exemple, où tu vois un peu tous les tenants et les aboutissants. Et c'est plus, vas-y, tu vas voilà globalement ta faction et essaye de jouer par rapport à ton ressenti, tu vois. Dis-toi que en gros, tu dois faire ça et fais ce que tu as à faire de mieux, tu vois. Mais ça va être valable en vrai que pour la première manche, tu vois, de la première partie que tu fais.
Oui, je suis d'accord par
Mais
contre. Voilà, c'est que la première manche et qui n'est pas forcément la plus influente de tout le jeu. Elle te permet de poser tes premiers jetons sur le plateau quand tu es d'autres joueurs que les kiwis. Les kiwis vont te permettre de gérer un tout petit peu les opossums. Mais voilà, t'es pas sur une manche qui est très influente. Donc c'est
ouais.
pas si gênant, mais quand même, voilà. Je trouve
Moi, je
que moi
pense.
j'étais paumé sur la première manche, quoi.
La première partie même, tu vas découvrir que, ah ouais, il est capable de faire ça, lui, tu vois. Tu vas découvrir un peu les autres factions. Mais moi, je trouve ça pas grave, en fait. Je trouve que ça crée encore une fois une narration que je trouve intéressante, tu vois, parce que ça fait un peu des petits suspens, tu vois. Et presque, en fait, la première partie, elle est cool aussi, parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est ta première fois, tu vois. Et donc, du coup, tu sais, t'as un petit côté surprise de la découverte, tu vois. Mais le jeu ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que si tu as envie, après, bah, quand tu refais une autre partie, tu auras toujours le côté fascinant d'observer cette fois-ci un autre embranchement de l'histoire, tu vois. Mais exactement comme tous les jeux card-driven, hein, la première fois que tu joues à Twilight Struggle, tu connais pas tout le paquet par cœur et donc tu vas découvrir un petit peu tout. La première fois que tu joues à Villainous, pour citer un jeu plus simple, tu vas découvrir le paquet de ton personnage, tu vois. Moi, ça me gêne pas. Moi, ça me gêne pas et je me dis que si je joue de manière à peu près cohérente mon personnage tel qu'il m'a été décrit, ça ira. Ou ma faction, si on parle d'un wargame, tu vois. Et j'entends tout à fait que des gens ne soient pas d'accord avec moi. Bon, après, si on peut parler d'un dernier truc avant que je conclue, c'est le nombre de joueurs.
Oui.
Évidemment, l'éditeur a mis de 2 à 4 joueurs. Alors, il y a un mode à 3 joueurs où on enlève la Maori, il y a un mode à 2 joueurs où l'anglais est automatisé. Moi, je trouve que le jeu, il est fait pour être joué à 4. C'est le plus intéressant. Alors, il y en a qui disent, oui, mais la Maori, elle est un peu dans son coin. Et d'ailleurs, l'auteur, à la base, avait designé le jeu à 3 et tout. Encore une fois, je m'en fiche de ce que l'auteur, il a fait avant. C'est intéressant de le dire à titre d'anecdote.
Il y a quand même un design initial qui est à 3. Moi, j'ai joué qu'à 3. J'ai trouvé que c'était fluide, tu vois. Je me suis dit même pourquoi il y a la Maori. Le seul truc qui m'a manqué à 3 joueurs, c'est que tu as des cartes dans ta main qui interagissent avec le personnage de la Maori. Et du coup, ces cartes, elles servent plus à rien. Vraiment, tu as des
Ouais, c'est
cartes,
ça.
ça dit, tu fais des choses s'il y a des personnages Maori. Sauf que bah, j'étais en mode, ouais, mais il n'y a pas le joueur. Donc, je fais quoi de cette carte? Je la défausse juste pour son initiative, elle a l'initiative de merde, super, je suis ravi. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage du coup que si tu designes ton jeu à 3 et qu'il y a un quatrième joueur, tu essaies de faire en sorte quand même de garder ce design à 3 cohérent. Et là, du coup, ben, à 3, il y a des cartes qui servent à rien dans la main de chaque joueur. Chaque joueur va avoir une influence sur chaque faction avec ses cartes. Et quand il n'y a pas la Maori, ben, il n'y a pas la Maori, quoi. Tu as des cartes qui servent à rien.
Ouais, tout à fait. Non, non, mais je disais, ouais, je m'en fous de l'avis de l'auteur, parce que l'important pour moi, c'est est-ce que à la fin, dans le jeu final auquel je joue, Est-ce que, effectivement, je ressens que la Maori, elle est dans son coin, tu vois ? C'est ça la question. Et moi, j'ai pas ressenti ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression que, certes, la Maori... En fait, c'est pas qu'elle est dans son coin, c'est que elle interagit à sens unique. C'est-à-dire que elle a un peu le rôle de la caverne dans Vast. C'est que elle ne fait que emmerder les autres. Et elle, c'est très difficile d'aller l'emmerder. C'est pas impossible, il y a des cartes qui l'emmerdent, mais beaucoup, beaucoup moins que les interactions entre les autres. Et à la limite, c'est pas grave. Tu vois, c'est un peu l'espèce d'arbitre qui est là pour rééquilibrer la partie, quelque part. Et c'est un rôle comme un autre. Et du coup, il faut chouiner auprès de la personne qui joue la Maori. Donc, t'as des interactions avec. Juste que ces interactions, elles sont autour de la table. Elles sont pas forcément au sein du jeu, quoi. Et moi, ça me va très bien, tu vois, comme truc. Mais de même qu'à l'inverse, le possum, il est un petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que lui, il peut pas trop faire chier les autres. Il est plus à en prendre plein la gueule, lui, tu vois, de la part de tout le monde.
Ouais.
Voilà, c'est un peu comme, tu sais, les groupes sanguins. C'est-à-dire que le possum, il est B+, tu vois, il est receveur universel, alors que la Maori, elle est O+, tu vois, elle est donneuse universelle. Mais donneuse de coups dans la gueule, je parle.
Ouais, elle est pas là pour sauver des vies.
Ouais, c'est ça, elle est là pour maintenir un peu une sorte d'équilibre. Intéressant, tu vois, intéressant, je trouve, comme choix de conception.
Ouais.
Voilà, mais comme tu dis, c'est aussi parce que moi j'aime bien, ça crée plus de, entre guillemets, politique, encore une fois le terme est un peu anglais là, autour de la table de jouer à 4, tu vois, que quand t'es à 3, tu peux vite te retrouver à 2 contre 1 et j'aime pas trop ça. Voilà, je vais faire une conclusion. Du coup, Kaori, c'est un peu le jeu asymétrique et plus particulièrement le jeu d'immersion que j'ai toujours attendu. C'est-à-dire enfin un jeu d'immersion épuré. Du coup, on a les avantages d'avoir un truc très fluide et en même temps très immersif. Du coup, on observe un peu une histoire qui va se raconter autour de la table et on doit essayer de comprendre les petites impulsions qu'on va devoir mettre dans cette histoire pour qu'elle finisse par pencher en notre faveur. Je trouve qu'il ne tombe pas dans l'écueil de faire un jeu trop simpliste. Hein, le jeu est simple, mais il prend son temps. Il a les bonnes mécaniques pour que les choses deviennent stratégiques et il va nous donner du coup des choix qui sont vraiment retors. Donc tout ça, moi, ça fait un jeu qui, je pense, en termes de qualificatif, il faudrait dire qu'il est avant tout fascinant. Voilà. J'espère que ça t'a donné envie d'y rejouer, peut-être.
Ah oui, oui, moi, j'ai envie d'y rejouer, clairement. Déjà à ma première partie, mais je suis plutôt d'accord avec toi sur cet avis général.
C'est cool. Eh ben, écoute... On va aller sur la fin, donc chers auditeurs, chères auditrices, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy c'est avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur plein de réseaux sociaux maintenant, on est aussi sur Mastodon et sur Blue Sky. Et surtout, bah, parler de nous autour de vous. Vous pouvez aussi nous faire un don si jamais cette émission vous a plu. Hein. Donc, tout est sur le site, il y a notre PayPal et vous pouvez aussi nous envoyer un RIB si ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera un nanar ludique la semaine prochaine. Je garde le jeu mystère pour le moment.
Même pas un petit indice. Et...
Non, pas d'indice, aucun. Ça n'a aucun rapport avec Kaori, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, jouez bien.